Et c'est ce que nous voyons en Romains 8, par exemple, quand Paul y décrit les sept grandes épreuves de l'Église, persécution, nudité et paix, etc. Mais il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Alors voilà, c'est ça qui est solide. C'est ça qui est solide. C'est ça qui peut nous apporter la stabilité dans les épreuves de la vie. Nous ne sommes pas plus forts que les autres hommes, finalement. Mais c'est ce sur quoi nous nous appuyons. L'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, et qui s'est manifesté quand il nous a donné Jésus, ça c'est solide. Et puis on ne comprend pas tout, justement, il y a beaucoup de mystères. Plus on avance dans la vie, moins on comprend les voies de Dieu envers nous. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, comme Job. C'est Corrie ten Boom qui disait, il y a beaucoup de mystères dans ma vie, je ne comprends pas, mais je connais quelqu'un qui connaît. Voilà. Il faut nous réfugier en Dieu et dans la parfaite connaissance qu'a Dieu. Pourquoi l'un a été frappé, pourquoi, bon. Pourquoi cette maladie, pourquoi cette perte d'emploi, etc. Tout prendre avec Dieu en pensant qu'il y a des buts et que nous verrons des belles choses dans l'éternité. Pourquoi dans notre région, il y a un jeune couple qui a reçu un enfant très handicapé avec, avec une espérance de vie très brève. Eh bien, pourquoi? J'ai visité un jour les grands-parents qui étaient éplorés, mais je n'ai qu'eu ce verset devant moi à leur lire de Jean 9. Ni celui-ci, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Les œuvres de Dieu, c'est quoi? On ne sait pas trop, mais il est magnifique ce verset. Il est magnifique. Un jour, nous verrons ces œuvres de Dieu qui auront été faites au travers des épreuves incompréhensibles de la route. Mais nous nous appuyons sur Dieu, nous nous appuyons sur sa sagesse, sur une parfaite connaissance qu'il a de tout et de tous, et sur son amour inconditionnel. Vous ne trouvez pas que c'est solide, ça? Mais ça demande exercice, ça demande prière, ça ne se fait pas d'un coup. On n'a pas cette stabilité comme ça. On peut être ébranlé, mais bon, ébranlé, c'est pas encore tombé. Ébranlé. Je peux vaciller. Mais le Seigneur, comme Asaph, nous permet de nous rattraper et de nous fonder sur lui. Bon, le dernier point que vous attendez. Ébranlé, un chrétien peut être ébranlé par l'Église. Je suis sûr, je suis persuadé, qu'il y a 20 ans, je n'aurais pas ajouté ce point. Non, parce que adolescent comme vous l'êtes, et puis après. À l'âge de 30 ans, 40 ans, non, l'église locale, c'était un havre de paix. On n'était pas, c'était la stabilité, on n'était pas du tout ébranlé. Et puis, il y a 10 ans, on a été ébranlé. Nos rassemblements ont été ébranlés, et nous aussi. Mais peut-être parce qu'on avait mal compris ce verset de Matthieu 16, le Seigneur Jésus dit, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Il ne dit pas que c'est l'Église qui est le roc, c'est lui. C'est lui le roc. C'est sur ce roc, c'est-à-dire sur la déclaration que je viens de faire, que je suis le Christ, le Fils de Dieu, je bâtirai mon assemblée. Il ne faut pas confondre, on avait cru que l'assemblée locale, l'assemblée, c'était le roc. On suivait gentiment, et puis tout à coup, ben ça a chancelé. On n'a jamais vécu ça, alors on a été ébranlés, nous aussi. Mais je suis bien sûr que ça a été mon cas adolescent aussi, quand j'ai lu un peu en détail, je l'ai relu après, l'histoire de l'Église dans son ensemble, c'est pas brillant. On est ébranlés, un peu, hein. Bon, il y a des ébranlements proches, mais dans l'Église. Il y a des choses qui nous ébranlent. Bon, vous me direz, il y a quand même les 3 premiers siècles qui ont été, après la Pentecôte, des siècles de fidélité. On savait très bien commencer, puis ça continue avec les persécutions. Bon, c'était quand même beau, la fidélité. Mais même dans ces 3 siècles de persécution, il y a des choses qui n'étaient pas claires. Il y a déjà eu des difficultés. Alors après, n'en parlons pas. Pendant tout le temps du Moyen Âge, où l'Église a pris le pouvoir et elle gouvernait le pouvoir séculier. Et ce qui est plus terrible, elle gouvernait la conscience des croyants d'une façon terrible. Et dans la partie orientale, c'était pas mieux. Les Orientaux, ils aimaient bien discuter, discuter pour discuter. Ils ont discuté pendant des décennies, même des siècles, sur la double nature du Christ. Ils se sont chamaillés, disputés à longueur de décennies sur ça. Et puis ils se sont enfoncés aussi dans cette affaire des images. Et l'Église, dans sa partie orientale, s'est vidée de sa vitalité petit à petit, et finalement, ça a ouvert un boulevard magnifique aux cavaliers d'Allah. La Turquie d'autrefois, l'Asie, qui était où il y avait ces sept assemblées, c'est devenu complètement musulman. Tout l'Orient, l'Afrique du Nord, l'Espagne. L'Espagne a été musulmane pendant 7 siècles, sauf erreur. Eh bien, c'est terrible cette histoire. On peut être ébranlé quand on lit ça. Vous allez me dire, mais il y a quand même aussi au XVIe siècle le beau réveil de la Réformation. Oui, c'est vrai, mais ça n'a pas duré longtemps. Et ça a débouché sur des cloisonnements, des divisions et des subdivisions. Je ne sais pas le chiffre pour l'Europe, mais j'étais quand même un peu effaré d'apprendre qu'en Amérique, il y a, ça ne doit pas être le dernier chiffre, il y a 250 églises différentes issues de la Réforme. 250 églises différentes issues de la Réforme. Et bon, avec le mouvement évangélique au XIXe siècle, et puis nous en avons encore ajouté un autre cloisonnement il y a 10 ans. Et un jeune qui découvre ça, mais toutes ces églises, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Il peut être déstabilisé. Il y a quelque temps, dans notre ville à Annonay, nous sortions du local, puis il y a une personne qui est passée devant. Et c'était une nouvelle convertie, elle allait être baptisée. Elle nous a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas tous ensemble à Annonay, toutes les églises évangéliques? On a été un peu sonnés sur le coup. Mais oui, elle avait retourné le couteau dans le plaid, pourquoi on n'est pas tous ensemble? On peut être ébranlé par ce spectacle, lamentable. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait une église dans chaque quartier, mais Dieu veuille qu'il y en ait une dans chaque quartier et dans chaque village de France. Ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'elles ne soient pas en communion les unes avec les autres. Ça, vous ne trouvez pas que ça peut être un ébranlement? Ça peut être un sujet d'ébranlement pour le chrétien? Oui, mais les jeunes me diront, mais il y a l'autre partie, mais qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Qu'est-ce que tu as à nous proposer sur la stabilité? À ce sujet aussi d'ébranlement, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Eh bien, je vous propose de chercher et de maintenir le cap. Vous savez ce que c'est que le cap? C'est Jésus-Christ un seul centre, la parole une seule autorité et le Saint-Esprit une seule puissance. Ça sera déjà beaucoup. Alors, vous cherchez une église. Moi, je ne vais pas prêcher pour une église particulière, je n'en ai pas le droit. Mais je dois prêcher pour ce qui est universel, c'est-à-dire ce qui est vrai pour tous les chrétiens du monde entier. Sinon, on tombe justement dans du particularisme. Chaque église a son particularisme. C'est une pensée d'André Gibert qui est très importante. Nous devons rechercher la voie dans laquelle toute l'Église aurait dû marcher. Il n'y a pas de particularité, pas besoin d'avoir une étiquette. Ni... Bon, alors, premier point du cap. Un seul centre, Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous devez vous assurer, quand vous allez dans une Église, que on ne se réunit pas autour d'un don, d'un ministre, si doué soit-il, mais de Jésus-Christ. On ne se réunit pas autour d'une doctrine, si biblique soit-elle, mais autour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, bon, il y a Matthieu 18, 20, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom ou vers mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, c'est lui le centre. C'est-à-dire, c'est lui la raison de notre rassemblement. C'est lui qui attire les cœurs. Et alors là, vous allez découvrir des croyants qui sont passionnés de Jésus-Christ. Ils ne vivent que pour lui, ils ne se rassemblent que pour lui, pour l'adorer, pour s'édifier, pour mieux comprendre qui il est, ce qu'il va faire, ce qu'il a fait. Ils sont passionnés de cette personne. Elle est centrale. Et si nous avions le temps, la première épître aux Corinthiens traite de la vie de l'Assemblée, de l'Église locale, eh bien, premier chapitre, deuxième chapitre, tout ce qui est dit de Jésus-Christ. Paul, d'ailleurs, ne voulait pas entendre parler d'autre chose que de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est comme s'il disait aux Corinthiens, il est central, il est capital. La croix de Jésus-Christ, la parole prêchée, Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, etc. Vous rechercherez ces passages. Bon, deuxièmement, ces chrétiens, ils ont une autorité qui est la parole de Dieu. Ils ne vont pas rechercher ni dans un missel, ni dans un messager, mais dans la parole de Dieu. C'est leur autorité. Alors, dans votre choix d'église, méfiez-vous bien que ces chrétiens-là, dans le principe au moins, se fondent sur la parole de Dieu. Mais c'est peut-être un petit groupe de chrétiens, ils ne connaissent pas beaucoup la parole, mais dans le principe, ils ne vont pas chercher ailleurs. Ils cherchent dans la parole, et comment se rassembler. Bon, c'est leur autorité. Et on trouve ça aussi dans cette première épître aux Corinthiens. Par exemple, « Ne vous élevez pas au-dessus de ce qui est écrit. » Ouais, ça veut dire, ce qui est écrit, c'est qu'il ne faut pas se placer au-dessus, et pas en dessous. Ce qui est écrit, c'est important. Et au chapitre 14 aussi, la parole de Dieu a-t-elle procédé de vous? Et puis même, il en fait un critère de spiritualité. Si quelqu'un veut être spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que j'ai dites sont la parole de Dieu, sont le commandement du Seigneur. Donc, ça fait autorité. Donc ça, c'est un deuxième critère de choix. Si vous voyez que dans l'Église, il y a autre chose qui fait autorité, attention, ce n'est pas normal. Troisièmement, une seule puissance, le Saint-Esprit. Ben, Paul en parle aussi, et au chapitre 3, il dit même que vous êtes charnel, vous n'êtes pas spirituel, c'est-à-dire vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Et au chapitre 3 aussi, il dira que nous ne comprenons les choses de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Et puis un peu plus loin, au chapitre 11, nous chantons par l'Esprit, nous prions par l'Esprit, et puis le frère qui s'exprime, ne serait-ce que cinq paroles, il les dit par l'Esprit. Et puis dans la deuxième épître, il est dit, ce verset quand même assez étonnant, « Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. » C'est un verset qui m'étonne toujours parce qu'on aurait pu, on pourrait paraphraser ce verset. « Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a l'amour. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la puissance. » Etc. Non, la liberté. Si dans une église, il n'y a pas la liberté de l'Esprit, nous y tenons à ça. Et même si nous le réalisons très mal, parfois. Je crois que nous y tenons. Alors vous me direz, les frères conduits par l'Esprit, c'est pas évident, c'est peut-être un peu subjectif. Oui, bon, ben, ça fait appel à notre spiritualité, mais je pense que dans une église où les frères et les sœurs sont conduits par l'Esprit, ça doit se sentir. Ça doit se sentir, plus que s'expliquer. Alors, les jeunes, ben, oui, c'est vrai, dans un contexte d'église déstabilisant, que Dieu bénisse votre choix, votre recherche plutôt. Mais il faut que vous soyez sérieux. Parce que si quelqu'un dit, bon, je vais dans une église, j'aime la belle musique, bon, mais ça, ce n'est pas un des trois critères. Hein. D'accord, c'est bon, mais ce n'est pas un critère de choix. Il y a des critères pour choisir une église qui ne sont pas fondamentaux. Et alors, si vous rencontrez des chrétiens qui maintiennent le cap, ces trois CAP dont j'ai parlé, vérifiez encore s'ils le maintiennent en toute humilité. Parce que ça nous a quand même joué des tours, ça. Même si on garde quelque chose de bon, si on a des prétentions, ça conduit à l'orgueil, et l'orgueil conduit à la catastrophe. Nous l'avons vécu. Donc, il faut que tout ça soit enrobé d'humilité. Parce que la stabilité, ce n'est pas fait pour toujours. Ça vient aussi de la vie de l'assemblée. Et la vie, c'est fragile. La vie, c'est fragile et ça dépend de chacun. Alors, si vous allez dans cette église, eh bien, vous y prendrez part et vous verrez que la stabilité et la vie, c'est pas évident, c'est une recherche continuelle. C'est une recherche continuelle. Oui, donc, vous les jeunes, que Dieu bénisse votre recherche, mais aux plus âgés, ça pose un problème. Enfin, une question. Est-ce que notre assemblée locale maintient le cap CAP? C'est la voie universelle. Eh bien, nous les plus âgés, dans nos églises respectives, que le Seigneur nous aide à maintenir ce qui est universel, c'est encore une fois ce qui est vrai pour tous les chrétiens du monde entier. Vous direz, mais il y a des cultures différentes. Oui, mais ça, c'est pas le problème, ça. Il y a des formes différentes, mais le Seigneur Jésus, un seul centre, la parole, la seule autorité, le Saint-Esprit, la seule puissance, ça, c'est vrai pour toute l'Église du monde entier, dans toutes les cultures. C'est pour ça que je présente ça, et non pas une particularité. On ferait encore une division, une fragmentation. Bon, voilà, que le Seigneur nous aide. La stabilité, ce n'est pas quelque chose de définitif, c'est comme l'équilibre. Il faut constamment demander au Seigneur de nous rendre stables par ses pensées imprimées dans notre âme, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif. C'était seulement avec Daniel un essai sur le grand sujet des ébranlements et de la stabilité du chrétien.